forcément qu'il y aura des priorités, mais ça ne veut pas dire que la dernière des priorités sera une priorité aussi.
RMC.
Vous comprenez ce que je veux dire?
Je vous entends parler, je vous entends écrire.
C'est intéressant d'avoir plusieurs arcs à son flèche, donc c'est bien.
Jusqu'à minuit, c'est l'Afterfoot, Gilbert Brébois.
Bonsoir à tous, l'After est là jusqu'à minuit. Nous sommes en direct comme tous les soirs, bien sûr, sur RMC à la radio, sur RMC Sport News, à la télé dans l'After, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du football pense tout bas. Jérôme Bretagne est là, évidemment. Salut Jérôme.
Salut Gilbert, salut à tous.
Daniel Riolo est là également, salut Daniel.
Salut les amis.
Et retour ce soir de notre grand gagnant de l'After Academy. Il est là avec nous, Anthony Quintela. Anthony, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Ça va, tu t'es remis de tes émotions de la première fois?
Ça va, tout, ça me fait toujours quelque chose de voir Jérôme, mais ça va.
Ah bon, ça te fait quoi?
C'est normal. Hein.
Tu penses pas qu'il est un petit peu trop tôt pour sa veste estivale? Il a mis deux rayons de soleil. Et...
Alors, excuse-moi.
On parle tout de suite sur les fringues.
C'est vrai qu'on est. Non, mais pour rappeler aux auditeurs.
En dessous de 20,
ceux qui n'ont pas la télé, aux auditeurs, on est quand même dans un studio. Et il fait 25 degrés.
Oui, mais bah, bon, viens en maillot de bain alors, tant qu'à faire.
Eh non, mais tu peux venir en veste. Bah, à toi, t'es obligé de mettre une veste d'hiver.
Hivernale.
N'importe quoi.
En dessous de 20 degrés.
Mais un pull en dessous, comme ça, tu vas pas attraper froid.
Pas du tout.
Bon, bah alors.
Je suis totalement
donc
en
là,
saison.
Vous êtes en train de vous engueuler sur la couleur de la veste de Jérôme, en fait. Ça.
Elle est trop estivale pour la saison. Il va trop vite. Et qu'est-ce qu'il va mettre en été?
Mais on s'en fout.
Mais on s'en fout. Le studio, il change pas. Mais pourquoi le studio en été, il fait 35 degrés ici?
Ça colle pas avec la saison.
Messieurs, je sors pas dehors comme ça.
Ce soir, deux événements dans l'After. D'abord, l'After va s'attaquer dans quelques minutes au problème des coups de pied arrêtés. Mais pourquoi en Ligue 1 a-t-on autant de corner et de coups francs mal tirés? Pourquoi est-ce qu'on n'a plus de combinaisons? Ça n'existe plus. On aura un spécialiste avec nous des coups de pied arrêtés tout à l'heure et on pourra en débattre. Rappelez-nous au 32-16 dès maintenant pour participer. Noël Tosi est un spécialiste des coups de pied arrêtés.
Mais oui, mais c'est pour ça que il avait fait il n'avait pas fait un bouquin sur les coups de pied arrêtés?
Peut-être.
Un bouquin, toi, un peu loin quand même, non?
Hein?
Pas un bouquin non plus.
Tu sais que Noël est actuellement en Maroc, il bosse au WAC Casablanca. Il nous écoute régulièrement, il m'envoie des messages. Il est là, quoi, Noël.
Bah ouais.
Fidèle au poste. Et puis, autre événement à 23h, on va parler des clubs à cash. Eh ouais, les clubs à cash qui ont des propriétaires qui veulent faire de la thune plutôt que gagner des titres. Alors, peut-on encore être supporter de son club quand il change pour devenir un club à cash? Eh ben là aussi, le 32-16 est ouvert. On vous attend pour débattre.
Il est surtout ouvert pour eux.
Ah oui.
Savoir comment Lillois, Niçois, Bordeaux vivent ça.
Je voulais pas citer de nom de club tout de suite, mais si tu balances.
Si, c'est eux surtout que j'ai envie d'entendre dans leur sincérité.
Dans
ce qu'ils ressentent.
Bordelais.
Dans ce qu'ils ressentent.
Exactement. Donc on vous attend tous, hein, 32-16, ce sera tout à l'heure. On parlera également ce soir de Griezmann.
Encore
parce que ça bouge. Ben oui, mais Jérôme nous a donné hier.
C'est pas parce que Jérôme a été repris par la presse espagnole que tout de suite.
Ah mais ça c'est normal. Dès que je dis quelque chose, forcément dans l'Europe, c'est repris. Hein. Et j'ai devancé tout le monde, qu'est-ce que tu veux que je te dise?
C'est vrai que pour le coup, il s'est mouillé hier.
Mais ouais.
Et oui, et du coup,
après, il faudra attendre le mois de juin. Est-ce que ça me donnera raison ou pas?
Oui, mais enfin, le fait que ce soit repris comme ça à l'international, j'espère que t'as verrouillé, parce que sinon, on va passer pour
Je suis pas sûr, il y a eu le pari Rocco qui passe à la maison ou pas?
Hein? C'est pour des baltringues, déconne pas. Déjà que ce matin, dans l'équipe, j'ai appris que Rabiot allait prendre la place de Modric.
Ah oui, non, mais, ah oui, moi aussi, je me suis levé, le petit déj, le café a eu du mal à passer, quand même.
Rabiot pousse sur le banc Modric au Real, tu vois, donc,
c'est quand la visite médicale pour Rabiot là? C'est prévu ou quoi?
Ça va arriver.
De toute façon, on a un correspondant. Hein.
On va aussi parler du reste de l'actu du jour. Notre opération équipe type, ce soir, messieurs dames, le plus grand club du monde, le Racing Club de Strasbourg, équipe type. Je pense que je vais vous faire rêver.
Bon, on appelle
déjà,
personne.
On espère.
Tu gères tout de A à Z.
Non, excusez-moi, on n'appelle personne.
C'est ta légende.
Même pas Gilbert Gress.
On aura. Gilbert Gress ne parle plus à personne. D'accord. Donc déjà c'est réglé.
Voilà, toi, il
par contre, t'es obligé de le mettre entraîneur emblématique.
Même pas un petit Léonard Spetch.
Il sera cité.
Même pas un petit coup de fil à Léonard Spetch.
Je l'adore Léonard en plus.
Même pas un petit coup de fil.
Il est super sympa.
Je sais qu'il est très sympa. Même pas un coup de fil.
Bah écoute, non.
Même pas un petit Albert Gemrich.
Deuxième meilleur buteur de l'histoire du club.
Un petit coup de fil à Albert Gemrich quand même.
Bah quand même, ouais.
Président de la Ligue.
Ligue
Grand Est.
Va pas mettre Chilavert dans les buts, je te jure.
Tu passes ton petit dictateur alsacien, je suis un peu troublé.
Non, mais là, on va pas déranger les gens alors qu'il n'y a pas besoin, c'est pour ça. Faut être clair. Évidemment, le 32-16 est ouvert toute la soirée. Évidemment, le hashtag RMC Live est disponible. Évidemment, Direct Studio l'est également sur l'appli gratuite RMC Sport. Téléchargez-la. là, vous aurez la possibilité de nous envoyer des messages, d'écouter la radio en direct en plus, d'avoir toutes les infos du jour. Et puis, on a ce soir un petit cadeau. Vous savez que dans 48 heures, c'est la finale de la Coupe de la Ligue. On vous fait gagner sur le compte Twitter de l'After le ballon de la Coupe de la Ligue, de la finale. Hein. C'est un nouveau ballon pour la finale. Un peu en mode beach soccer, le ballon. Allez sur le compte Twitter de l'After.
Du moment qu'il est mieux que le ballon...
Avec les ronds, là?
Oh la vache, il faisait mal à la tête.
C'est pas la même marque.
Il faisait mal, ouais. Mais il faisait mal à la tête. Je le promets.
Il était trop dur?
Non, pas mal à la tête.
Non, mais quand tu voyais tourner, franchement, c'est un peu quatrième dimension. Quoi.
Si tu le regardais un peu trop.
Non, mais
c'est
je te jure.
C'est
comme la coupe, en fait. C'est un peu genre dans la série Le Prisonnier quand il tournait.
Sur les passes longues, c'est compliqué. Si tu fixais trop le ballon, je te jure que ça te perturbait. Alors ça va, moi, j'avais des yeux sur le pied gauche, mais pour certains, c'est compliqué.
Des yeux sur le pied gauche, ça tu l'avais jamais fait.
Sûr. Ça veut dire que t'es pas obligé de regarder le ballon.
Attention, on a un direct ce soir. Morgan Mori, spécialiste sport de combat.
Oh, karaté kid, qu'est-ce qui se passe?
Et là, salut Morgan, pour la soirée. Bonsoir à tous.
Est-ce qu'il y aura Teddy Bertin dans ton équipe?
La réponse est non.
Remplaçant.
Il y a bien mieux que Teddy Bertin.
Oh ouais, dis donc, hey Morgan. En parlant de sport de combat là.
Oui Daniel, je t'écoute.
Oh, l'interview ce matin de Raphaël Tronchet, ce qu'il a mis à Tony Yoka.
Ça fait partie de la boxe.
Les gars, c'est pas dans le foot qu'on a des interviews comme ça, il y a qu'en boxe que les mecs parlent vraiment.
Je l'ai lu.
Ali, faut lire l'interview, c'est une régalade. Oh, ce qu'il lui met le pauvre.
Tony.
Mais est-ce qu'au fond il a raison de l'attaquer comme ça ou il exagère?
C'est que moi comment j'interprète l'interview, c'est que il voit Tony Yoka comme un impétrant, comme un nouveau dans le monde des poids. Alors c'est vrai puisqu'il a que 4 combats à Tony Yoka face à des adversaires de peu de qualité et lui s'estime plus fort.
Raphaël
Tronchet c'est un champion de France et il veut être respecté comme un champion de France, mais Yoka il a des ambitions beaucoup plus loin que le championnat de France, vous vous en doutez, c'est pour ça que Tronchet
mais il a déjà fait le championnat de France, ce serait bien d'avoir ce combat.
Oui, mais ça arrive pas à monter les matchs.
Sinon, là, on est dans une soirée de boxe à Lille. Tu nous as rien dit pour l'instant. Qu'est-ce qui se passe?
Eh ben, Yvan Mendy qui vient de s'imposer. Il a envoyé pour la 4e fois au tapis le Belge Hakim Ben Ali. C'est arrivé dans la 8e reprise. Et Yvan Mendy qui avait échoué dans la quête d'une chance mondiale il y a quelques mois contre l'Anglais Luke Campbell. Eh bien, l'Elge se relance. Il fallait gagner avec classe contre Hakim Ben Ali. Il a fait victoire par arrêt de l'arbitre à la 8e reprise. Yvan Mendy, le Lion qui s'impose. Le dernier combat de la soirée dans un instant. Gilbert, Mathieu Boderlic, médaillé de bronze aux Jeux Olympiques à Rio. Il va affronter un Espagnol, Mustapha Chadlioui, pour une ceinture intercontinentale WBA.
Ouais, c'est un bon petit plateau là, t'as deux boxeurs français qui sont pas mal. Hein,
ouais, Brahim Masloum, la classe. Il commente le match sur RMC Sport 1.
Et puis il donne des
conseils aux boxeurs en même temps.
Il fait tout.
Il organise la réunion.
C'est monsieur boxe en France. Hein.
Ah bah ouais.
Bah, il a pris du poids, champion olympique, champion du monde, promoteur, entraîneur.
Brian King.
Ouais. Non mais franchement, faut lui dire, il a qu'à être promoteur à organiser le combat entre Tronchet et
là il y a du monde et Tony Yoka n'est pas dans l'équipe de Brahim Masloum. Peut-être ça changera bientôt.
C'est pas avec Don King.
Il est dans l'équipe Canal+, donc ça va être un peu.
À tout à l'heure Morgan.
À plus tard.
Allez, l'actu du jour, on y va. Griezmann, donc la une du Mundo Deportivo ce matin, vous l'avez vu, qui annonce que Griezmann serait prêt à gagner moins pour venir à Barcelone. Hier soir, Jérôme nous parlait de l'éventualité de Griezmann à Barcelone. Alors évidemment, tout ça est très secret, opaque. On sait qu'il y a une réunion qui devrait se tenir en famille chez les Griezmann dans quelques jours. En tout cas, c'est ce qui se dit, c'est ce qu'ils font savoir.
Réunion en famille.
Oui,
alors explique-moi ce que c'est, comment on doit la traduire. C'est là-bas. Alors c'est là,
sa sœur, quoi.
J'en ai entendu des conneries, mais alors la réunion en famille. Vas-y. Vu que c'est sa sœur qui s'occupe de lui.
Oui, mais
donc t'imagines que sa sœur a
aussi beaucoup ce que dit son père.
Ouais, d'accord. Donc en fait,
voilà.
Tu prends les gens pour des cons.
Mais il écoute aussi beaucoup ce que dit son épouse.
Ouais, d'accord.
Espagnol.
Donc vu qu'ils se parlent pas au quotidien, parce que bien sûr qu'ils parlent d'autres choses, ils sont obligés de créer une réunion. Tu te rends compte?
Oui, mais son père n'est pas en Espagne.
Le lieu secret, bien sûr, hein, parce que on va faire ça dans la cave.
Peut-être à Mâcon, chez M. Griezmann.
Ou à Mâcon, on va réunir tout le monde
dans la cave.
Alors qu'ils se voient tout le temps, et tout le temps au téléphone. Et Bon, alors, on fait quoi?
Écoute, je te relaie les infos qu'on a, moi, vieux. Je suis pas.
C'est pour, c'est pour faire gagner du temps. Je te l'ai dit hier, de toute façon. Après, on verra au mois de juin. On va pas en parler tous les jours non plus.
Ouais, alors, pour le coup, franchement, ce qu'on a vu au niveau de son salaire et qu'il serait prêt à baisser, je crois, de quasi 5 millions son salaire, ça, pour le coup, c'est inédit. Enfin, dans le football moderne, mais ça se voit très, très rarement, ce genre de choses.
Ouais, mais
pour rejoindre le Barça.
Il a tellement un salaire important à l'Atlético et il le mérite parce que s'ils l'ont gardé, ils ont fait l'effort.
Le sportif français le mieux payé, hein, après l'enquête récente là de.
Barcelone n'a peut-être pas envie.
Ça veut dire que son salaire il est inaccessible pour le Barça.
Il faut le prendre comme ça.
Au bout d'un moment, tu montes autant dans un club qu'on t'a autant mis dans le confort. Après, c'est compliqué, ouais.
Après, il va pas être malheureux quand même, hein.
Non, mais je veux dire que le joueur accepte de baisser autant sa rémunération. Ouais, même si on est tous d'accord qu'il est très bien payé, c'est rare de nos jours. Ce que je veux dire, c'est que c'est rare.
On n'en sait rien, quoi. Moi, c'est. Les amis, si on démarre le 31 mars
Jérôme, il allait
avec ce genre de thème là, mercato, salaire et tout, moi je veux bien, hein, mais je suis pas sûr de vous accompagner.
Non, mais
moi je suis entre ce que dit le Mundo Deportivo, les journaux espagnols, italiens en matière de transfert, ils s'allument dès le mois de février.
Non mais Daniel,
ils racontent n'importe quoi.
On est d'accord.
La moindre phrase est interprétée sur interprétée. Je termine. Moi je suis désolé, c'est pas dans ma culture. Ça me gave à mort. Vraiment, ça me gave, ces thèmes-là me saoulent complètement.
Mais moi, ce que je veux dire, je l'ai pas fait dans ce sens-là hier. Moi,
je relaie les infos du Mundo Deportivo.
C'est pas des infos.
Écoute.
En matière de transfert, Marca, Mundo Deportivo, Gazzetta, Corriere, Tutto Sport, tout ce que tu veux. Ils sont pas là pour ça. C'est plus ça maintenant.
C'est juste là pour vendre du cash.
Sauf
que c'est vrai que les termes de toute façon tu les sauras pas tant qu'il aura pas signé tout ça. Donc Daniel a raison dans un sens. Est-ce qu'il est prêt à baisser de 5 millions, 6 millions, 7 millions? Pour l'instant, il a pas encore signé, c'est vrai. Et s'ils veulent ne pas sortir cette info avant le mois de juin parce que la clause passe de 200 à 120, ils ont tout à fait le droit de le faire dans tous les cas. Maintenant, ça n'empêche que en interne, eux, ils savent déjà ce que Antoine va faire. Il y a une clause, c'est très simple. Aujourd'hui, il y a même pas à demander l'avis de l'Atlético Madrid.
Tu payes la clause,
c'est aussi ça. Bon. C'est vrai que après, tu peux partir dans des délires. Je rejoins Daniel, par contre, sur autre chose. C'est vrai que quand tu vois aujourd'hui le recrutement de certains joueurs ou des équipes qui se forment, comme le Real Madrid aujourd'hui, franchement, à cette période-là, ça me fait bien
Daniel,
rire.
Daniel, on est obligé d'en parler puisqu'il se passe des choses. Je veux dire, tu vois, là, on n'est pas en période de mercato. Hier, le Bayern officialise Lucas Hernandez hors période mercato.
Il officialise Lucas Hernandez. Ça, c'est une info. Le reste, excuse-moi, tu vas commencer à faire des équipes types dès le mois de mars.
Non, mais ça, c'est
sur
une
les
connerie.
Éventualités.
En plus, tu sais,
les éventuels transferts.
Tu sais qu'il y a 80% de chances de ne pas retrouver celle-là. Donc,
oh là là, non mais franchement.
90.
Alors, passons à la suite. Le Graet répond à Maracine et à nous. On a parlé l'autre jour longuement de la volonté de la ministre des Sports de combattre clairement les chants homophobes dans les stades. Le Graet dit aujourd'hui, dans une interview au Figaro, il dit, j'ai pas de leçon à recevoir déjà d'une, donc il était énervé, hein, Noël Le Graet. Et il dit, c'est vrai qu'elle a pas trop, il parle de Maracine et à nous, c'est vrai qu'elle a pas trop l'habitude de venir au stade. C'est vrai que dans les piscines, on n'entend pas ça, dit Noël Le Graet. Donc bon, il lui met un petit quand même. Maintenant, il dit bon, je peux quand même comprendre que effectivement, ce soit choquant. Je condamne ces chants. Et puis il ajoute, regardons aussi ce qui se passe depuis 4 mois en France. Je suis pas certain que le football ait beaucoup de leçons à recevoir, dit Noël Le Graet. Donc qui défend le foot.
Il a raison. De toute façon, heureusement qu'il défend le football. Et ça aurait été bien qu'il le fasse dès le lendemain de la sortie médiatique de la ministre.
Faire ce genre de déclaration.
Bien, là. Donc quoi qu'on dise sur le foot, il faut être corporatiste, il faut forcément défendre.
Non,
mais qu'il se passe
pas du tout. Mais là, il défend quelque chose qui est très juste, je pense. Comme quoi,
il défend que ça fait
quoi,
partie du foot et qu'il faut rien faire.
Il dit qu'il condamne et qu'il veut faire quelque chose, hein, sur les champs.
Mais qui condamne. Ouais.
Je comprends pas votre point de vue.
Non.
Qu'est-ce qu'il y a à défendre?
Il reproche juste le discours de la ministre, de toute façon.
Donc ça veut dire que quelqu'un d'extérieur, au foot, a pas le droit de s'immiscer pour en parler alors qu'elle est ministre des Sports, mais elle dit ce qu'elle veut. Mais quand bien même elle dit n'importe quoi. Elle a jamais mis les pieds dans un stade. Elle est quand même en droit de dire, j'ai trouvé que les chants étaient complètement pourris dans le stade.
Elle a quand même le droit de le dire.
Mais je t'ai jamais dit le contraire.
Elle est représentante de l'État en matière de sport.
Je t'ai jamais dit
le contraire. Qu'elle se plante, qu'elle connaisse rien au ballon, machin, mais il faut arrêter le corporatisme et se replier sur nous-mêmes. Ou alors, surtout, venez pas vous mêler de ce qui se passe chez nous, ou quoi.
Donc, qu'est-ce que t'aurais aimé qu'il fasse, Noël Le Graët, qui dise rien?
Bah, si.
Ah, bah, voilà. Donc on est d'accord.
Non, on n'est pas exactement d'accord, parce que pour toi, il doit absolument défendre, il faut surtout pas toucher à la chose football.
J'ai dit sur son intervention à elle.
Que Le Graët explique comme on l'a fait l'autre soir, que c'est quelque chose de culturel, que parce que c'est culturel, ça veut pas dire que ça doit être accepté ad vitam aeternam, il aimerait bien pouvoir changer quelque chose, qui s'attaque à plein de dossiers, que d'ailleurs pas lui, mais la Ligue, à la violence dans les stades, que ce qui peut être fait en matière de délinquance dans les stades est fait, mais que pour ce qui est des champs, c'est un peu plus compliqué au vu de la nature simplement de cette forme de délinquance, parce que ce sont des champs que peuvent faire 1000 personnes en même temps. Voilà, qu'il explique, mais qu'il fasse pas l'autre, qu'est-ce qu'elle vient nous faire chier, qu'elle retourne dans sa piscine.
Non, c'est pas tout à fait ce qu'il dit.
C'est le même genre, ça fait genre le mec qui se plaint sur Ricard, retourne dans ta bagnole, t'es hypocrite.
Ce que je veux dire, quand elle a sorti ça il y a quelques jours, t'étais le premier à dire mais attends, c'est la première fois qu'elle vient dans un stade de football.
Et oui. Ah bon? Je te dis pas le contraire.
Bon bah voilà, c'est tout. Bah c'est ce qu'il dit. Donc il dit.
Oui, mais qu'il dit également autre chose. Qu'il essaie d'expliquer qu'il est un peu plus intelligent que ça.
Mais attends, c'est pas ce qu'il a dit.
On défend une neuve, donc qu'elle vienne pas et tout. Et puis il la renvoie à sa piscine.
Mais il défend le foot. Tu veux qu'il défende quoi? Il va défendre quoi?
Mais
la natation.
La renvoyer. Mais putain, les ministres des sports, sors là de la piscine à un moment. Tu vas pas la renvoyer à la piscine tout le temps. Dis-moi qu'elle est nulle parce qu'elle ne maîtrise pas les dossiers.
Ils ont voulu faire la même chose tous les deux.
Moi j'aime qu'on attaque les gens, mais de façon argumentée et
il a en plus condamné.
Lui, il l'a renvoyé à sa condition. Je déteste qu'on renvoie les gens à leurs conditions. J'aime pas ça.
Les deux ont voulu s'affirmer.
Bien sûr, je suis pas fan de Noël Le Graët.
Elle, on n'entendait pas parler. Depuis qu'elle est ministre des Sports, personne ne savait qu'elle était ministre des Sports, donc elle a voulu faire une petite sortie comme ça, voilà, se faire connaître. Et lui, il a voulu faire pareil en affirmant un petit peu son autorité, en disant voilà,
oui, c'est un petit peu mon jardin. Je ne défends ni l'un ni l'autre. Moi, je pense que des deux côtés, les réactions des deux ne sont pas justes.
Ah, mais je dis pas le contraire.
Ce que je n'aime pas, moi, c'est le repli sur soi et d'être corporatiste.
Dossier suivant, Daniel. Report de match. On a appris aujourd'hui que le match Saint-Étienne-Nîmes, qui devait se tenir ce week-end, est reporté à lundi prochain. Alors c'est un peu inhabituel, à lundi soir pour un match de Ligue 1.
La raison c'est qu'en fait c'est le
bordel qu'il va y avoir samedi un peu partout.
Parce qu'en fait on s'attend à un gros rassemblement de gilets jaunes ce week-end à Saint-Étienne. Il y a plusieurs manifs, donc en gros la préfecture dit on peut pas tenir le match. Donc on peut le faire lundi. La Ligue a dit ok, 20h30 lundi soir. Bon, sauf que ça rend dingue les supporters, notamment les Nîmois. Cyril avec nous au 32-16 qui est là. Salut Cyril.
Salut.
Ça va?
Ouais, ça va, ouais.
Alors toi, les changements de date et tout, là, ça commence à t'énerver.
Carrément, j'ai un petit coup de gueule à passer parce que depuis le début des manifestations des Gilets jaunes, alors je ne mets pas en cause les Gilets jaunes dans l'aéroport, mais Nîmes Olympique, c'est son 8e report de match qui subit.
Je crois que c'est le club qui a eu le plus de reports, hein, Nîmes.
Voilà. Donc il y a eu des reports à domicile. Ça impacte que les gens, on a 11 000 abonnés à Nîmes Olympique et les gens qui sont abonnés, quand ils sont abonnés en début de saison, c'est pour aller voir des matchs le vendredi, le samedi ou le dimanche, et qu'on se retrouve à nous programmer des matchs les lundis ou les mardis soirs à partir de 19h à des heures quasiment impossibles parce que les gens finissent de travailler à 18h ou à 18h30 et que voilà quoi, il y en a assez là. On vient d'annuler nos déplacements à Saint-Étienne. Pour ma part, je suis président d'un groupe de supporters. Je viens d'annuler 3 bus. Donc il y a des engagements de prix, il y a des frais, de passer et on annule.
Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse,
Cyril? Excuse-moi, quelle serait la solution
pour toi?
Qu'est-ce
que tu veux qu'on fasse?
Qu'est-ce qu'on pourrait faire?
Toi, tu peux pas supporter ton club, mais à cause des gilets jaunes, il y a un tas de gens qui ont perdu leur taf, des magasins qui souffrent, l'économie française qui est en difficulté.
Mais moi j'ai un truc.
C'est plus important que ton match de foot,
Daniel,
malheureusement.
Il y a quand même autre chose. Il y a quand même quelque chose, pardon. C'est que selon les préfets, les décisions sont très différentes. C'est-à-dire qu'il y a des préfets qui sont plus coulants. Ben oui. Et qui disent bon bah nous c'est bon on va tenir et le match on s'organise.
Chaque préfet gère.
Et il y a des préfets ils veulent rien savoir et à la ligue aujourd'hui la ligue se sent Cyril il faut le comprendre aussi il faut je suis pas forcément défendre la ligue
mais ils
se sentent parfois pris en otage en fait par
ils
les préfets.
Aucun
ils
pouvoir de décision par rapport aux préfets.
Ils nous foutent le bordel dans notre championnat quoi en gros.
Mais les préfets se sont pas concertés pour pénaliser Nîmes non plus.
Non mais peut-être que la ligue pourrait faire un pas aussi vers les préfets et dire attendez. Discutons avant que, parce que en gros les préfets ils disent rien à personne. Arrêté préfectoral, pam, tiens, démerdez-vous, on fait pas le match.
C'est ça.
Et après la ligue ils se récupèrent ça, ils sont obligés de faire avec. Donc tu vois Cyril, peut-être que s'il y avait plus de dialogue, les choses se feraient un peu plus. Après le fait que Nîmes soit beaucoup touché, en fait c'est le hasard. Oui. Vois, c'est malheureux mais
ah, oui, c'est clair.
C'est le hasard quoi.
Parce non que... alors c'est pas à 100% le hasard dans le sens
c'est une partie de hasard quand tu joues à l'extérieur. Là, les Nîmois, ils y peuvent quoi qu'il y ait des gilets jaunes à Saint-Etienne ce week-end.
Non. Oui, ça bien sûr. Mais après, dans les reports, certains préfets, comme tu dis, qui doivent prendre les décisions, regardent aussi parfois l'affiche et selon que ça concerne certaines équipes qui peuvent mettre une forme de pression et dire nous ça nous arrange pas là, donc ils poussent la ligue. Qui essaye de pousser le mieux qu'elle peut avec le peu de pouvoir qu'elle a sur les préfets en question. À la marge, ça peut jouer un petit peu en fonction du club que tu es et du poids que tu peux avoir.
Tu entends que je sais pas moi, le président d'un club de Ligue 1, je m'entends bien avec le préfet, j'ai 4 suspendus. Puis à 4-5 gilets jaunes dans ma ville, je dis bon, ça m'arrangerait que tu joues.
C'est des discussions.
Ah non, mais là c'est pas possible.
Bon, ben,
je veux pas croire que ce soit comme ça.
Bah alors si tu dis que c'est pas possible, c'est pas possible. Moi je pense qu'il peut y avoir des discussions qui à la marge peuvent pousser certaines personnes qui prennent des décisions à dire bon ben ce match là est-ce qu'on peut pas faire autrement, il faut le maintenir. Voilà.
Bon, Cyril, tu veux rajouter un truc?
Ouais, honnêtement, 330 supporters au départ quand en début de saison, on nous dit que il faut qu'on se mette d'accord pour les organisations de déplacement, on se met d'accord avec les clubs, on prépare les bus, le préfet annonce que la limitation va être à 500. Une semaine après, il revient sur sa décision, il annonce que ça va être 400 et au dernier moment, donc mercredi, il annonce que on n'a plus le droit de se déplacer. Il faut pas oublier quand même que les supporters en France font partie du paysage du football et que sans supporters dans les stades, le football.
Mais Cyril, on a l'impression qu'on vient de parler 5 minutes pour rien dire. Il se trouve que la situation en France en ce moment, socialement, elle est très très compliquée. Tu penses bien que le foot doit forcément venir après ?
Non, mais je suis d'accord. Mais alors, on va revenir sur le match de l'année dernière en Coupe de France à Saint-Etienne quand le même préfet nous a interdit de déplacement, il n'y avait pas de problème de gilets jaunes, on est bien d'accord.
Et quelle était la raison à l'époque?
La raison, les problèmes avec leurs supporters.
Avec les problèmes de supporters à Saint-Etienne.
Ouais.
Voilà.
Mais oui, parce que l'an dernier c'était tendu à Saint-Etienne.
On a l'impression que maintenant les préfets prennent des
suspensions aussi cette année d'ailleurs.
Comme ça, ouais, le prétexte.
Enfin, Cyril, en tout cas, on, effectivement, c'est vrai que c'est un problème d'organisation important pour vous, pour les groupes de supporters. Et c'est vrai qu'un match le lundi soir,
c'est frustrant, ça, c'est sûr.
Que c'est rageant. Bon, en tout cas, il sera sur RMC ce match lundi prochain à partir de 20h30. Merci, Cyril. Deux, trois petites infos encore, les gars, pour être complet. Sachez que Godos, l'Iranien Damien, se fait opérer de l'appendicite, peut-être saison terminée. Voilà, ça pose des problèmes à mon petit gazon, hein, certains collègues. Et puis l'équipe de France accueillera un adversaire de prestige en jouant à Nantes, la Bolivie.
Bolivie, ouais.
J'ai l'impression qu'ils ont pas trouvé grand chose, donc
absolument personne voulait jouer contre.
Là, c'est ça, c'est qui veut.
Bon, la Bolivie.
Deux là.
De Erwin Platini Sanchez.
Est-ce que Erwin Sanchez joue encore?
Bah non, je crois que.
De Erwin Sanchez Platini.
Il était devenu sélectionneur après.
Ouais.
Et puis Ole Gunnar Solskjaer reste à United. Hein, vous avez vu ça aujourd'hui?
Ça c'est.
3 ans de contrat.
Et oui, en Angleterre, ils sont persuadés.
Merci Kimpembe.
Il est persuadé qu'il a managé le match retour au Parc des Princes.
Oh non, c'est pour le championnat plutôt, Daniel. C'est pas le match retour. Je pense qu'ils ont bien conscience qu'ils ont une énorme.
J'ai lu un article dans le Guardian et j'ai entendu des journalistes qui travaillaient ici avant dire que
Il y a un vrai redressement quand même
sur
du
ce match-là avait été extraordinaire.
Oui, non, non, c'est, moi je suis d'accord avec toi. Il y a eu
ces... en Angleterre des gens pour dire que tactiquement sur ce match au Parc le 3-1,
il y a eu ces analyses. Oui, les médias disent ça, oui, mais que les dirigeants pensent que c'est pour ça qu'ils vont prolonger.
Je parlais de médias qui disaient ça. Je pense que ces gens-là.
Après, c'est vrai que les médias qui le prolongent. Ce qui me paraît logique, c'est que quand on juge souvent les entraîneurs par rapport à leurs résultats aujourd'hui, depuis qu'il a pris l'équipe, c'est la meilleure équipe de Première Ligue. Il est devant Manchester City, il est devant Liverpool. Donc, ça me paraît tout à fait logique qu'il continue. De toute façon, les joueurs ont l'air de se plaire avec lui. Alors, autant rester. Hein.
Dans quelques instants, on va parler des coups de pied arrêtés. Messieurs, dames, bougez pas, 32-16. Le débat est lancé. Comment les améliorer? Pourquoi est-ce qu'en Ligue 1, il y a autant de déchets sur les coups de pied arrêtés? On va en débattre.
Sur la veste de Jérôme.
Pardon?
Un sondage a été lancé.
T'as fait un sondage carrément sur Twitter.
Photo pour la veste de Jérôme, 54% des gens sont d'accord.
Je vais voter pour toi.
C'est incroyable. Le sondage pourri, quoi. T'avais pas plus de nul, franchement.
Et alors, en plus, le pire de tout, c'est que, je vais pas dire que c'est des imbéciles.
Même la montre, t'as déjà sorti le bracelet d'été. Sur ta montre gilet jaune.
Bah après, je vais pas parler de la montre.
Parce que... pour sortir les trucs de
Daniel, je vais pas, j'ai vu des critiques sur ma montre. Je vais pas parler de la montre et me défendre sur les réseaux sociaux. Mon pauvre. J'oserais même pas.
Allez, à tout de suite dans l'after. Le débat continue sur les coups de pied arrêtés.
RMC. L'afterfoot. Gilbert Bribois.
Daniel Rigolo est là, Jérôme Rotten est là, Anthony Quintela, notre vainqueur de l'After Academy avec nous ce soir. Un petit tour à la boxe avant de parler des coups de pied arrêtés. La soirée de limite, Morgan Mori, que se passe-t-il?
C'est parti pour le dernier combat de la soirée, Gilbert, entre Mathieu Boderlic et l'Espagnol Mustapha Chadlioui. Combat mi-lourd pour une ceinture intercontinentale WBA. Fin de la première reprise, avantage au boxeur tricolore, au boxeur Denis Beaumont. 12 rounds de 3 minutes dans ce combat.
Très bien, on revient te voir tout à l'heure. Pascal Grosbois est avec nous. Pascal, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être là parce que Pascal est un spécialiste, messieurs, de quoi? Des coups de pied arrêtés. Pascal a collaboré avec plusieurs clubs, justement sur cette question. Ah, t'as passé de joueur, hein, avant d'être devenu entraîneur, si tu peux nous refaire
tout à fait. J'ai réalisé une carrière de professionnel pendant 13 ans, quoi. Essentiellement en Ligue 2. J'ai joué en Ligue 1 à Laval, avec Franck Leboeuf, d'ailleurs.
Il nous l'a dit tout à l'heure,
oui. Ligue 1.
T'as joué avec la charnière centrale Steak Leboeuf?
C'est ça.
Magnifique! Steak Leboeuf!
Steak Leboeuf, c'est gros bois pour faire le barbecue.
Le trio.
Ah, vous étiez bien.
Et voilà, donc du coup après j'ai enchaîné sur une carrière d'entraîneur, quoi. Ça fait plus de 20 ans que j'entraîne. Et puis ces dernières années, je me suis penché effectivement sur les coups de pied arrêtés parce que
en tant que joueur, c'est toi qui les tirais.
Oui, en tant que joueur, je les frappais en tant que gaucher. Je frappais donc les corners, les coups francs, même les pénaltys, arrangés ou les
balles. Mettons tout de suite à une idée reçue que véhicule Jérôme Rotten depuis des années dans l'after. Est-ce que les gauchers sont meilleurs sur coups de pied arrêtés?
Bah, je pense qu'ils sont plus adroits que les droitiers, ouais, effectivement. Non. Je pense que les trajectoires des gauchers sont vraiment plus.
C'est comme au tennis, c'est pareil.
Plus précises, plus variées également. Le ballon retombe plus vite.
Enfin, je sais pas. Il y a aucune explication mécanique ou physique.
Non, absolument aucune. On pourrait citer 1000 droitiers qui avaient des pieds magnifiques sur coup de pied.
Mais on a jamais
Beckham,
dit le contraire.
Piero, à Pirlo, ouais. C'était des droitiers.
Mais
arrêtez de vous la raconter avec les gauches.
Excusez-moi. Les trajectoires sont plus surprenantes.
Que tu sois largué, parce qu'on là, on parle de technique.
Le gaucher est original, parce qu'il y en a moins, il se croit toujours unique.
Mais pas du tout.
Bon, c'est vrai que Maradona et Messi sont gauchers.
Et la majorité des gauchers, en effet, sont capables de donner des trajectoires que l'ensemble des droitiers ne sont pas capables de donner, c'est tout. Après, bien sûr qu'il y a des exceptions.
Tu veux dire, il y a un effet surprise.
Oui, Beckham trouvait des angles incroyables, ça c'est clair. Mais sauf que c'est
la surprise vient de l'originalité parce qu'il y en a moins.
Alors, Pascal,
arrête un peu de
allons directement à l'essentiel.
Mais si, mais tout le monde te le dira.
Moi, c'est un sujet. Chaque fois que je joue un match de Ligue 1 et que je vois des corners mal tirés, quand des fois t'as certains matchs de Ligue 1, mais t'as 5 corners dans le match, t'as 5 corners mal tirés.
Normal, ils sont frappés par des bourrins.
C'est pas possible. Est-ce qu'en Ligue 1,
faut avoir un peu de technique pour bien tirer un coup de pied.
Est-ce qu'en Ligue 1, tu fais le même constat que nous, c'est qu'il y a un gros problème sur les coups de pied arrêtés. On manque totalement d'efficacité à tel point qu'on se pose la question de savoir si c'est bossé à l'entraînement.
Disons que non, il faut prendre en compte tous les paramètres d'un match, quoi, le stress, la pression, la fatigue, et puis c'est pas toujours les mêmes tireurs qu'on a dans, qui sont désignés dans une équipe, donc ça varie. Et quand il y a des changements de tireurs, effectivement, c'est moins régulier. Mais par contre, je pense quand même que, à travers, bon, je pense à l'équipe de France, je trouve qu'il y a une nette amélioration.
Mais là, tu parles de l'élite, l'équipe de France. Ouais. Sur les matchs, le match de Ligue 1 moyen.
Non,
là,
l'équipe de France, on a vu qu'un travail avait été fait, qu'il y avait même eu la petite combi contre l'Uruguay, que Griezmann, avec sa technique, tire très bien les coups francs en corner. Et on a bien vu que les défenseurs centraux ont été cherchés et trouvés pour leur jeu de tête.
Pour souligner.
Moi j'aurais une question préalable. Pendant très longtemps, on nous disait que les buts sur coup de pied arrêté étaient de plus en plus importants. Mm-hmm. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que le constat il perdure?
Non, mais les coups de pied arrêtés, c'est un élément très important à prendre en compte parce que c'est souvent décisif pour ouvrir le score.
Justement, ce que je voulais savoir, moi, c'est aujourd'hui, on sait quelle est la part de buts sur coup de pied arrêté sur la totalité
pas,
des buts.
Ça dépend des équipes.
Je crois qu'il y a
un chiffre.
Il semble que c'est un tiers. Hein, c'est
28% sur une saison en général
pour un club. Enfin, la moyenne, c'est ça. En gros, en y ajoutant les pénalties. Hein. Donc
à l'arrivée c'est pas tant que ça.
Moi je pensais que c'était
c'est quand même
un
tiers quasiment.
Il y a quelques cas rares. Moi je vous donne un exemple que je connais. Oui. Parce que j'en ai discuté avec les entraîneurs. Quand Strasbourg est en Ligue 2, ils marquent plus de 50% de leurs buts sur la saison, sur les coups de pied arrêtés. Donc c'est très largement au-dessus de la moyenne.
C'est forcément dû à un travail.
C'était un gaucher qui les tirait.
On améliore le ratio, ça c'est sûr.
Bah oui, bien sûr.
On marque les buts de trois façons. Il y a les attaques rapides, les attaques placées. Et les coups de pied arrêtés. Mais quand on travaille...
Le pourcentage, 30% on va dire, coups de pied arrêtés, entre attaque rapide et attaque placée, t'as la différence sur le 70% qui reste, à peu près égal.
C'est similaire, voilà.
C'est un tout petit peu plus les attaques rapides.
Ouais. Donc les contres.
Ouais.
Pour
logique, parce qu'il y a encore plus d'équipes.
Ça équilibre plus. Alors le PSG a évolué un peu cette année, contrairement aux autres années, mais le PSG rééquilibrait un petit peu parce qu'il y avait beaucoup d'attaques placées. Mais sinon, le foot, de toute façon, ça se voit. Le foot aujourd'hui, c'est transition rapide.
Le foot vers plus d'attaques rapides que d'attaques placées.
Ouais, parce que c'est compliqué déjà quand t'as une défense regroupée de répéter 20, 25 passes, 30 passes avant de se créer l'occasion et de marquer.
Coup de pied arrêté, c'est la France à la Coupe du Monde, c'est le parfait.
Attaque rapide.
Pascal, toi qui es un spécialiste des coups de pied arrêté, est-ce qu'il faut dans chaque équipe avoir sur coup franc, sur corner, une, deux ou trois combinaisons que tout le monde connaît, un peu comme au rugby finalement.
Déjà un ou deux tireurs
que tout le monde connaît.
Enfin, que l'équipe connaît.
Son équipe bien sûr. Ouais, non, il faut même je dirais voir 3, 4, 5 combinaisons.
C'est ou pas aujourd'hui.
Mais ça, parce qu'il y a des... quand tu regardes les matchs de Ligue 1, tu le constates pas
non.
Que ça existe.
C'est là que ça pêche pour moi, c'est qu'il n'y a pas d'effet de surprise. Il y a un tireur, il frappe dans la zone effectivement.
Lui, il choisit plus de la zone
il serait bon, je pense, d'amener un effet de surprise, une feinte avec Angers, on travaillait beaucoup ses coups de pied arrêtés avec un gaucher, un droitier. On peut le faire avec deux droitiers, avec deux gauchers, peu importe, mais il y a beaucoup de feintes à mettre en place pour surprendre l'adversaire, justement, pour le faire bouger, pour
surprendre l'adversaire, surprendre le gardien.
Et pourquoi c'est pas fait
Oui, bien sûr.
Pourquoi c'est pas fait
Ça parce que c'est pas encore entré dans le.
Moi, je vais te dire pourquoi, parce que t'oses peut-être pas le dire, parce que plein d'entraîneurs déjà. Et je l'ai connu. Alors moi, c'est.
Son flemmard.
J'ai arrêté il y a 4 ans, 4-5 ans. Mais j'ai connu ça tout au long de ma carrière. Il y en a très peu déjà qui consacrent beaucoup de temps au coup de pied arrêté. Souvent, tu les fais en fin.
On a eu un sélectionneur qui disait que ça servait à rien.
Ouais, la preuve.
Rappelle-toi du but de Mexès, le coup de l'escabeau là. On lui a demandé, mais vous les travaillez les coups de pied arrêté? Il a dit non.
De toute façon, c'est sûr que tu peux pas créer des fausses pistes, des combinaisons si tu ne travailles pas un minimum. D'accord. Donc t'as des entraîneurs qui te le font les coups de pied arrêtés. J'en avais plein et l'ensemble en France, je te parle. C'est le jeudi, donc c'était à 48 heures du match où c'est une. Mais en fait, moi, ça me dérangeait de le travailler jeudi. Je vais te dire pourquoi, parce que jeudi c'est une période où à 48 heures du match, tu récupères en général. Donc si tu fais un footing, tu fais un tennis ballon. Et quand tu travailles les coups de pied arrêtés dans ces conditions-là, t'es pas concentré. Tu le fais à 50%. toi, alors le tireur, t'es concentré, mais les autres qui sont au marquage ou qui veulent attaquer le ballon, ils le font à moitié. Ça sert à rien. Mais à rien du tout. Donc il faut y consacrer vraiment un horaire du moins une plage importante dans une bonne séance, une grosse séance. Alors oui, ça peut être fatigant en effet, mais ne serait-ce qu'une demi-heure. Et une demi-heure, tu décides avec ton tireur, le droitier, le gaucher, quel joueur toi. Moi, je sais que je prenais les choses en main au bout d'un moment. Alors avec l'expérience, c'est plus facile parce qu'on n'avait pas d'entraîneur vraiment détaché à ça. Et je regardais un petit peu déjà les joueurs de tête qui attirent le ballon. Des fois, tu vises une zone et c'est toujours le même mec qui vient.
Comment tu fais en match, Jérôme, pour annoncer les combinaisons pour voilà. Parce qu'on voit toujours des joueurs qui lèvent le bras avant de tirer.
En fait,
jamais ce que ça veut dire.
En fait, moi, je vais te dire.
Toujours de la même façon.
Soit toi qui saches, hein, c'est eux qui doivent savoir.
Je vais te dire.
Il va lever le bras deux fois sur deux coups de pierre différents. Il va tirer deux fois de façon différente.
Pascal Grosbois.
Les annonces, elles se font rien qu'avec le regard.
Exactement.
Pas besoin. Si on a travaillé deux jours ou la veille avant le match. On sait, il y a un leader de joueur de tête qui se met en communication, en relation avec le tireur ou les deux tireurs. Quoi.
Le bras, c'est pour le style. Quoi.
L'idée, c'est...
non, pas forcément.
C'est un signe aussi.
Exactement.
C'est pour voir se mettre en mouvement, quoi. Les joueurs de tête, quand le bras, il est levé ou alors il est descendu.
D'accord. C'est dire, là, ils peuvent démarrer votre course.
Moi,
je me souviens
de ce match, Saint-Etienne Ipswich, au début des années 80, quand les Verts prennent 4-1 à Geoffroy Guichard. C'est d'être Mariner, le tireur de corner, et qui faisait un coup le bras tendu, un coup les deux, un coup un. Et je me souviens très bien de Jean-Michel et Thierry et Roland qui commentaient le match, qui disaient, putain, qu'est-ce qu'il fait? Ils ont mis deux buts sur corner comme ça, et la défense de Saint-Etienne, vous voyez, qui comprenait rien, et eux, ils comprenaient. Parce que quand il a fait les deux bras, c'est premier poteau, quand il a fait un, c'est deuxième poteau. C'était basique,
ça peut être ça. Je sais qu'à Bastia, je levais un bras, c'était pour la mettre au deuxième. Au bout d'un moment, après...
Ah, le rusé, il n'avait qu'un bras pour la mettre au deuxième,
le pied sur Mariner.
Mais sauf que, au bout d'un moment, tu peux pas le faire tout le temps parce que les adversaires sont pas
là.
Ils se disent, bon, bah voilà, donc on va arrêter de le faire. Moi, j'avais c'était surtout avec l'attaquant. À Paris, je l'ai fait souvent avec Paoletta. Et ça se vérifie dans les buts qu'on a pu marquer sur coup de pied arrêté. Parce que souvent il était là, c'était dès que j'avais un coup franc excentré, surtout côté gauche, donc sortant pour le gardien. Systématiquement, je disais à l'arbitre quand il y avait faute, coup de sifflet ou pas coup de sifflet. Et il me disait tu peux jouer si tu veux. Donc je posais le ballon, je prenais un pas d'élan et direct je frappais et Paoletta se mettait un petit peu en retrait et partait avant tout le monde. Et je peux te dire plus d'une fois on a réussi à aller des fois ça a pas toujours fait but, mais
est-ce que Pascal dans les clubs où t'es passé, est-ce que les coachs te laissaient bosser tranquillement là-dessus, les mains libres?
Ah tout à fait. Que ce soit à Angers ou à Niort ou à Laval, à Angers, Stéphane Moulin, lui il a eu l'intelligence de me solliciter parce qu'en fait, il me dit moi je suis entraîneur mais je sais pas faire les coups de pied arrêtés. Donc il a confié cette tâche à un spécialiste, voilà, et en fait, j'intervenais parfois deux fois par semaine, le mardi uniquement avec les tireurs pour répéter le geste avec les mannequins, et puis le jeudi de J-2, avec les joueurs de tête. Donc ça a bien fonctionné.
Tu bossais aussi le système défensif.
Et on a travaillé aussi le système défensif un peu moins, mais c'est davantage l'affaire du gardien de but.
T'es plutôt zone ou individuel?
Moi, je suis plutôt individuel. Je suis plutôt individuel avec un joueur à la trajectoire.
C'est ce qui fait le plus, non?
Avec
un joueur en général.
L'OM fait de la zone, vous avez remarqué ces derniers temps. Hein. Ils mettent 4 mecs devant les 6 mètres, là.
La zone, franchement, quand t'es un tireur et que tu sais que la défense elle est en zone, tu prends un peu plus de risque sur la zone, et en général la zone où tu veux la mettre la balle, en général ils sont très mal parce que t'en as toujours un qui peut s'oublier plus ou moins, et souvent tu regardes quand t'as un bon tireur en face, si t'as pas un marquage individuel ça fait souvent occasion de but. En plus si t'as un gardien qui sort pas, c'est aussi problématique parce que t'as ça à mettre en... Mais c'est vrai que défensivement les travailler tu peux le faire. Mais moi, je partais du principe que défensivement, et c'est les défenseurs, c'est pas moi, parce que moi, soit j'étais au poteau, soit j'étais à la retombée, j'avais pas envie d'aller au duel. Mais les défenseurs, ils disaient, de toute façon, c'est...
Parfois, t'étais lobé.
L'envie... Non, c'est le gardien qui me lobait. Le gardien qui mettait des claviers au-dessus de la tête. Bon, ça pouvait arriver. Mais Mika, on t'embrasse. Mais c'est vrai que c'est côté avoir envie de faire mal à l'adversaire.
Voilà.
Voilà, c'est tout.
C'est le marquage, c'est la détermination, c'est combat, c'est l'état d'esprit,
et tu
c'est l'engagement.
Sais. Écoute-moi,
mais
Monaco.
Offensivement, c'est l'engagement aussi, l'engagement des joueurs de tête.
Ça. Alors, Monaco, on fait une pause, Jérôme. Et ensuite, on continue le débat. Il y a notamment Mickaël qui va intervenir au 32-16. On est avec Pascal Grosbois, donc spécialiste des coups de pied arrêtés. C'est rare en France, hein. Je sais pas si t'es le seul, je sais pas s'il y en a d'autres aujourd'hui qui sont spécialisés là-dedans, mais enfin.
Non, mais on en reviendra sur les coachs, là, parce que tout à l'heure,
on y reviendra. À tout de suite dans la.
RMC. L'After Foot. Gilbert Bribois.
Jean Bretagne, Daniel Riolo, Anthony Quintela est avec nous, notre gagnant de l'After Academy, et Pascal Grosbois, entraîneur, ancien joueur pro, aujourd'hui spécialisé dans les coups de pied arrêtés. Messieurs, on accueille Mickaël au 32-16 qui voulait intervenir. Salut Mickaël.
Oui, bonsoir, messieurs.
Bonsoir, Mickaël. T'as été joueur pro, toi aussi ?
Oui, j'ai joué en Belgique.
D'accord.
En deuxième division.
Ok.
Et j'étais formé au PSG, lorsque j'étais Poussin, à l'époque, ça s'appelait Poussin. À l'époque, et jouais aussi au Racing. Enfin, dans un club, au Racing, Racing 92. À l'époque, c'était le Matra Racing. Et en fin de compte, je voulais intervenir juste pour par rapport au sujet de ce soir, pour moi, je crois que c'est ça, c'est les coups de pied arrêtés.
Tout à fait.
Non, les touches, voilà. On est aux touches.
Ah ouais, peut-être, hein, mais même la touche, il faut qu'il y ait plus ou moins la qualité, il faut quand même soigner la touche.
Non, mais sur le coup de pied arrêté, là, t'es étonné aussi du...
On va revenir justement sur le coup de pied arrêté.
Vas-y, on t'écoute.
Le coup de pied arrêté, ça se travaille. Voilà. C'est un travail qui se fait, qui est effectué lors d'un entraînement. Ça peut être une tactique aussi. Parce que je me rappelle justement lors des premières années qataris du PSG, ce que je ne vois plus, c'est Thiago Silva qui montait et qui marquait, justement. Qui montait
sur les coups francs
justement. Oui. Il montait coups francs ou au corner. Ou les corners, ils montaient et ils marquaient au début.
Mais
il
faisait partie de ces joueurs qui, comme disait Jérôme tout à l'heure, attirent le ballon, en fait.
Marquinhos. Non, mais après, ils attirent, mais ils font l'effort. Ils ont la volonté de... Ils ont la conscience. Ils ont une conscience qui leur permet d'aller, justement, dans une zone de but. Je pense que, voilà, c'est... Ils font pas par... insouciance. Ils le font... Parce qu'il y a eu un travail peut-être qui a été fait.
Et de manière générale, les défenseurs centraux, ils montent très souvent sur les coups
arrêtés. Pascal, est-ce qu'il n'y a pas un problème de base, quand même? C'est que le tireur de coup franc, les trois quarts du temps, il veut marquer.
Il veut marquer, ça dépend dans quelle situation. C'est-à-dire, à quel niveau?
Est-ce que finalement, il faudrait pas renverser le truc en disant que le tireur de coup franc, il faut avant tout essayer de le transformer en un passeur décisif. Regarde Cristiano. Cristiano, il met un coup franc en gros sur 5 ans.
C'est différent. Non, mais là, c'est différent. C'est coup franc direct.
C'est coup franc direct. Il cherche à marquer.
Moi, je parle plus soit du corner, soit du coup franc excentré, une sorte de corner ouvert. Où là, il y a un déchet qui est énorme. Mais pour moi, ça tient à plusieurs choses. C'est OK, le travail, est-ce que le mec en a fait une caisse à l'entraînement pour qu'il dose la zone et les frappes et tout ça? Même s'il faut toujours préciser, je sais pas si vous avez un peu abordé le sujet tout à l'heure, mais pour m'être informé là-dessus, avoir parlé avec des pros, ils me disent que, et ça vaut même quand on est en amateur, hein, quand tu es en match, prendre le soin de faire baisser ton rythme cardiaque au moment de la frappe, parce que le rythme que tu as au moment où tu joues et au moment de t'arrêter pour mettre le coup franc, il faut...
Comme un buteur en rugby.
Ouais, voilà, il faut retrouver le bon souffle pour que ta frappe parte bien.
Ouais, bon, le souffle, Daniel, tu veux que je te dise, je l'ai quasiment jamais. Tu le récupères jamais parce que ça s'enchaîne tellement vite.
Oui, mais il faut juste deux secondes essayer d'évacuer un petit peu.
Mais ça va vite. Alors,
faire Ronaldo, par exemple, c'est très bien. Voilà. Il expire, non, ça relâche.
Mais une fois qu'on fait ça après la base pour tirer ce fameux coup franc, Jérôme et d'autres, il faut une technique de frappe, il faut un pied. Et le problème de notre Ligue 1, c'est qu'il y a un déficit technique qui est très important dans notre championnat. Mais il faut tout simplement dire ça.
Mais pourquoi
et après
pourquoi
il y a le travail de comment tu bouges dans la surface, pourquoi, ce que tu fais, les
Daniel,
mouvements.
Tu veux que je te dise, c'est pareil, c'est
le constat. Dans une équipe qui est capable de foutre ça, Bernard.
Le constat, il est simple, c'est que quand tu vois le déchet, rien que sur les centres, déjà. Les centres, les coups de pied arrêtés, c'est du travail. Écoute, je l'ai vu, il y a beaucoup de bons joueurs techniquement quand tu arrives au niveau pro, hein, c'est que t'as, tu sais, quand t'entends certains te dire "oh, le mec c'est une chèvre" et tout ça, non, ils ont des bases solides. Après il faut travailler. Il faut travailler, il faut le travailler à l'entraînement, il faut répéter le geste, en effet, répéter le geste de frappe. Quand tu parles de corner ouvert, les coups francs excentrés, quand pour un gaucher, par exemple, tu frappes rentrant le qui finit dans souvent au deuxième but, au deuxième poteau, et ben tu le frappes d'une certaine façon. Quand tu frappes de l'autre côté, quand c'est sortant, tu le frappes pas avec la même surface de pied. Mais ça c'est personnel, et c'est à force de répéter le geste que tu prends confiance.
Bien sûr,
et ça. Après tu le fais en match. Mais attention, en match tu peux répéter à l'entraînement. Après en match t'as le facteur, il y a la fatigue, la lucidité comme tu dis, mais il y a aussi le stress, la pression du stade. Des fois t'as le pied, il tremble un petit peu, et c'est la vérité, tu vois.
Pascal Gros.
Pour confirmer un peu les propos de Jérôme et Daniel, j'estime effectivement que un travail spécifique supplémentaire, complémentaire aux entraînements tactiques, généraux, à la préparation physique, est nécessaire pour répéter le geste, les centres, les coups de pied arrêtés, le jeu de tête, et pour aussi gagner en confiance, comme tu dis, Jérôme. 15 minutes. En plus d'une séance d'entraînement, c'est pas
que
beaucoup, et c'est un très très bon entraînement.
Mais genre, on est bien d'accord que c'est pas en Ligue 1.
Non mais si, c'est pas assez.
En Ligue 1, tu veux que je te dise, et Daniel va être content dans ce que quand je vais dire ça, parce que lui est le premier à dire, et je peux pas des fois, que le footballeur français est feignant.
Mais bien sûr.
Tu vois.
Mais j'en pense pas.
Non mais écoute, je suis en train de te donner raison. Ce que je veux dire, ça vient de toi, en fait. Ouais. En France, c'est ça le problème. C'est que ça doit venir de toi. Moi, j'étais un bosseur. Tu vois, sur les coups de pied arrêtés, sur les centres. C'est pour ça que j'en ai fait ma carrière. Et grâce à ça, j'ai réalisé une grande carrière pour moi. Tu vois. C'est que j'ai répété et j'allais contre ce que disaient la majorité de mes entraîneurs. C'est qu'en fin de séance, moi, Bastia, Frédéric Hans, je l'ai déjà dit plus ou moins, c'était dans le vestiaire, Frédéric Hans, les premières séances, je me souviens, en préparation d'avant-saison, où on préparait les matchs amicaux, je restais après la séance un quart d'heure, une demi-heure. Il voulait pas. Il me disait non, tu rajoutes de la fatigue, c'est pas possible. Je dis mais attends, je connais mon corps, je sais ce que j'ai besoin de faire, je reste. Si tu veux pas que je reste, je tire pas les coups de pied arrêtés. Donc heureusement, il m'a laissé faire, il m'a fait confiance. À l'arrivée, on a fini champion de Ligue 2 grâce à Wahbi Khazri et à moi, où on a mis 40, plus de 40% de nos buts sur coups de pied arrêtés.
Comment on explique David Beckham, il frappe bien les coups francs.
Oui.
Comment on l'explique?
Juninho.
Parce qu'il a, il a travaillé. Juninho, il travaillait trois fois par semaine.
Oui, une base.
Gérard Houllier, il le laissait avant la fin de la séance, pendant que les autres s'entraînaient sur les phases offensives, et lui, il allait tout seul avec son sac de ballon et avec l'entraîneur, avec le gardien de but. Il mettait ses mannequins et il frappait les coups francs comme faisait Michel Platini.
Et après, t'as les donneurs de leçons.
Alors, toi,
non, si, parce que ça, c'est important aussi. Les entraîneurs qui ont envie de se faire connaître ou qui se disent putain lui c'est le joueur phare de à Caen par exemple en fin de carrière, je signe à Caen. D'accord, j'ai 35 ans hein.
Oh putain, donc, j'ai l'impression donc, je sens que Garande va en prendre.
Non, mais c'est même pas de Garande parce qu'à l'arrivée on fait les coups de pied arrêtés et son adjoint je me souviens plus trop de son nom là
bref, on s'en fout.
Si je l'ai noté, Uriez, voilà, Jean-Marie Uriez qui venait de Cherbourg. D'accord. On fait une séance de coups de pied arrêté. Ok, pas de problème. On fait un match de championnat, on le gagne, mais on n'est pas très performant sur coups de pied arrêté. La semaine d'après, on rebosse les coups de pied arrêté. Et là, il vient vers moi, il me dit « Ouais, pour ceux qui viennent devant le but, essaye de changer ta façon de frapper, ta course d'élan. » Je lui dis « Mais je le regarde, je lui dis « Mais tu sais quoi ? Ben frappe-le à ma place. » Alors, il croyait que j'étais pas sérieux, tu vois. Donc il me dit non, mais change ça. Je lui dis mais tu vas me changer quoi? J'ai fait ma carrière comme ça, en frappant de cette façon-là. Mais écoute, prends mes chaussures et tu verras, le ballon il va arriver là où
mais
il faut.
Il veut te faire progresser le gars, c'est pas un bon sentiment.
Mais il l'a mal pris. Il l'a mal pris sur le coup. Mais c'est la vérité. Tu peux pas changer la façon. Est-ce que toi, t'as essayé de changer la façon de frapper des
mecs? Non, je peux pas changer. Moi, c'est à angle droit. Et les entraîneurs, ils te disent souvent non, ouvre ton angle et tout ça. J'ai un joueur qui me témoignait de un très bon tireur de coup de pied arrêté. Aitouara pour pas le nommer. Mm-hmm. Très bon, Ligue 2 je pense, et chaque année il changeait de club, et chaque année l'entraîneur lui disait non, change ta course d'élan, prends plus d'élan. Chaque année il avait une façon différente.
Il l'avait bien qui continue comme il s'est fait, mais
il fallait le laisser avoir son geste naturel.
Du coup, il travaille et qu'il reste avec son geste.
Il avait un bon pied, mais il a été complètement anéanti.
Tu veux que je te dise la base de tout ça, c'est t'as le frappeur, qui prend deux pas d'élan,
David,
5. Ouais,
c'est un super bon footballeur quand même.
Mais moi je prenais 4-5 pas d'élan,
gaucher.
Et ben en fait les 4-5 pas d'élan, quand tu dois faire les attaquants ou ceux qui montent, ils doivent faire en fonction de ta course d'élan, tout
bien
simplement.
Sûr, c'est pas coupé.
Alors c'est intéressant. Mais là, je vends du rêve aux auditeurs. Mais qu'est-ce que tu me racontes,
au moment où tu deviens le plus intéressant, qui te coupe, pourquoi.
Ah, je suis depuis un bout de temps intéressant.
Sur toi et sur ta
dans quelques instants, on est de retour. On parle encore du coup de pied arrêté. Et tiens, un point box rapide, Morgan.
Avantage pour Mathieu Boderlic. Nous sommes dans la 8e reprise de ce championnat pour une ceinture intercontinentale WBA. Il a envoyé sur les fesses son adversaire Mustapha Chalioui. À la 3e reprise, encore 4 reprises.
Allez, pousse, Morgan.
Dans quelques instants, Pascal Grosbois nous explique à quoi servent ces foutus corners à la rémoise, auxquels personne ne comprend jamais rien. À tout de suite dans l'after.
RMC. L'after foot.